With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Aujourd'hui, on évoque la vaccination en France, alors que notre pays élargit la vaccination contre le Covid-19 à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans. Après une méfiance vis-à-vis des vaccins relevés en décembre, différentes enquêtes soulignent aujourd'hui que plus d'un Français sur deux désire être vacciné contre le nouveau coronavirus. Quelle est l'histoire de la vaccination dans notre pays? Quelle opposition? On en parle avec Olivier Faure, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon 3. Il est membre du laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes.
L'histoire de la vaccination en France, ce n'est pas une nouveauté, parce qu'elle est quand même apparue au tout début du 19e siècle, donc ça fait plus de 200 ans, à propos de la vaccination antivariolique. Et que du reste, à l'origine, le terme de vaccin, qui vient de vache, vacca en latin, qui veut dire la vache, ne concerne effectivement que le vaccin antivariolique, qui est en fait du pu qui est prélevé sur les vaches qui souffrent d'une maladie qui ressemble à la variole et qui s'appelle le cowpox, donc la variole des vaches. Et donc, c'est le médecin de génère qui s'aperçoit que tous ceux qui sont en contact habituel avec les vaches et qui les traitent, ne sont jamais atteints par la variole humaine. Et donc, il en déduit que si on injecte la variole des vaches aux individus sains, ils ne développeront pas la variole. Donc, c'est comme ça que le vaccin arrive. Donc, c'est tout simplement pour dire que c'est quand même une longue histoire et que c'est pas quelque chose de récent. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il se trouve que cette vaccination antivariolique, contrairement aux vaccinations qu'on nous propose aujourd'hui, elle est véritablement quelque chose de très artisanal. On s'aperçoit très vite, comme on peut pas trouver toujours du vaccin sur des vaches autant qu'on voudrait, on est obligé de transférer le vaccin de bras à bras, que donc l'efficacité du vaccin a tendance à s'atténuer, que donc la vaccination antivariolique ne protège pas totalement contre la variole, et que en plus, comme on prélève du vaccin sur des enfants, et cette vaccination peut transmettre d'autres maladies. Donc, c'est quand même une vaccination qui n'est à la fois ni très efficace et qui n'est pas dépourvue de vrais dangers, à mon avis, sans aucune commune mesure avec ce qui se passe aujourd'hui. Et de façon assez paradoxale, cette vaccination antivariolique, elle est relativement bien acceptée à condition que les vaccinateurs prennent un minimum de précautions. C'est-à-dire qu'ils acceptent de ne pas vacciner les enfants trop jeunes, qu'ils soient un peu attentifs à l'origine du vaccin, que éventuellement aussi ils prennent en compte le fait que c'est plus facile de vacciner des enfants lorsque le vaccinateur est par exemple une femme, une sage-femme, plutôt qu'un docteur en médecine qui vient de la ville, etc. Globalement, on peut dire quand même qu'il y a une espèce de paradoxe, que cette vaccination n'est donc ni très efficace, ni sans danger, et relativement acceptée par une population qu'a priori, on pourrait au contraire juger aujourd'hui comme étant plutôt pleine de préjugés, qui n'a pas une culture scientifique très élevée. Elle accepte ça parce que je crois que quelque part, elle s'aperçoit bien que par rapport à la variole qui est sûrement la cause de mortalité principale en Europe occidentale au XIXe siècle, eh bien, effectivement, il faut faire quelque chose. À partir des années 1880, on utilise des vaccins qui sont à base de cultures de microbes atténués. Alors, le cas le plus flagrant, c'est celui de la tuberculose avec le célèbre BCG, donc le bacille Calmette-Guérin, qui est en fait produit à partir de l'atténuation du bacille de corps, du bacille de la tuberculose, qu'en laboratoire, on atténue par toute une série de procédés techniques. Mais que là aussi, il s'agit de ce qu'on appelle un vaccin atténué, c'est-à-dire qu'il continue à avoir des germes infectieux et que donc il provoque effectivement une maladie atténuée, mais c'est quand même bien la maladie, même si elle est atténuée. Et donc, ce bacille calmette-guérin, lui aussi, hein, il est effectivement, il a pu être, lorsqu'il est mal dosé, mal préparé, il a pu effectivement être dangereux. En particulier, il y a eu en 1928, à Lübeck, dans le nord de l'Allemagne, eh bien, une centaine de décès d'enfants qui avaient été vaccinés par un BCG qui avait été effectivement mal préparé. Mais ça, c'est une période quand même qui est aussi assez ancienne. Hein. Le BCG, c'est 1921. Et déjà avant les années 1920, on a aussi utilisé un des vaccins qu'on appelle des vaccins tués, dans lesquels il n'y a plus effectivement de germes infectieux. Donc, qui sont effectivement plus sûrs, avec moins de risques, que le fait de transmettre la maladie, même atténuée.
Ce que vous me dites, c'est que la vaccination qui était donc très amateur, le procédé très amateur au début avec la variole, 19e siècle, ensuite c'est entre guillemets professionnalisé au cours du 19e siècle et du 20e siècle, et on ne voyait pas, alors que même c'était très amateur dans les processus de fabrication et le processus de vaccination, on ne voyait pas d'opposition au vaccin. On voyait, dans la population française, on voyait plutôt le bénéfice de cette vaccination plutôt que les accidents qui étaient réels.
Oui, globalement, on voyait plus ça. Alors, je vous dis quand même, sous réserve, qu'il fallait prendre des précautions pour vacciner sans prendre les gens à rebrousse-poil, si j'ose dire. Donc, vous voyez, par exemple, les médecins au 19e siècle pour la vaccination antivariolique ont été très imprudents en disant il n'y a que nous qui pouvons vacciner, alors qu'ils n'étaient pas nombreux, etc. Il faut vacciner uniquement dans les conditions que nous disons et que, effectivement, tout ce qui est réticence par rapport à l'âge des enfants, la fragilité des enfants, etc., il ne faut pas en tenir compte. Ils ont aussi affirmé que le vaccin ne pouvait pas contenir d'autres maladies, ce qui était faux. Ça a expliqué des réticences à la vaccination. Mais c'était plutôt des réticences sur les conditions de la vaccination que sur le bien fondé de la vaccination elle-même. Parce qu'au tout début, on voit effectivement un véritable engouement, pas uniquement parmi les élites et pas uniquement parmi les médecins, mais également dans la population où tout le monde effectivement se met à vacciner. C'est-à-dire que l'idée qu'on puisse inoculer une maladie bénigne pour protéger d'une maladie plus grave, c'est quelque chose qui n'est pas complètement absent dans les raisonnements populaires. Parce que même, je vous en ai pas parlé, mais avant la vaccination antivariolique elle-même, il existait un procédé qui était un procédé utilisé dans les campagnes sans intervention médicale et qui était toujours à propos de la variole, qui était celui de l'inoculation variolique. Et qui était donc la pratique qui consistait, de la part des familles, injecter du pus de varioleux à leurs enfants pour les protéger de la variole. Donc, pour vous dire que, comment dire, cette idée de geste préventif, y compris celui qui ne va pas de soi quand même, de donner une maladie pour protéger d'une autre qui pourrait survenir, est quelque chose qui n'est pas quand même complètement étranger au mode de raisonnement populaire ruraux du XVIIe et du XVIIIe siècle. On parle beaucoup des effets des sels d'aluminium. C'est quelque chose qui est utilisé dans les vaccins depuis les années 1920. Et juste à une période récente, personne n'avait jamais dénoncé les effets de ces adjonctions de sels d'aluminium. Donc c'est vraiment une situation très, très paradoxale qui pose quand même un peu la question à la fois de la formation biologique et des bases médicales dans la population, et également aussi de cette méfiance quand même assez irrationnelle par rapport à tout ce qui est organisé.
Merci à Olivier Faure pour cet entretien. Minute Papillon avec son point d'exclamation, c'est le podcast de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver gratuitement sur toutes les applis et les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, nous évaluer avec des petites étoiles et nous écrire à audio@20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.